Vendredi 29 mars, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses où je recevrai deux invités afin de discuter de différents sujets concernant le championnat du monde 2024. Mais pour débuter, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friends Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Dans l'actualité, eh bien, le motoriste japonais Honda prépare son retour en Formule 1, même si certains diront qu'ils n'ont jamais vraiment quitté. Bien, ils se sont retirés un peu de la scène, laissant Red Bull créer sa propre division interne de groupe motopropulseur au cours des dernières saisons. Il y avait toujours un petit partenariat avec Honda qui était plus en retrait, mais Honda prépare vraiment son retour à 100% avec une implication avec l'entreprise du milliardaire montréalais Lawrence Stroll, c'est-à-dire Aston Martin, à compter de 2026. Eh bien, le développement qu'on a dans ce dossier-là, c'est que Honda veut se rapprocher et avoir une meilleure cohésion avec l'écurie britannique. Ils auront une nouvelle usine installée en Angleterre, plutôt à Bracknell, qui est au sud du nouveau campus d'Aston Martin à Silverstone. Donc, on aura aussi une embauche massive là, au courant de l'été afin de regarnir ces employés qu'on a laissés. Là. C'était même une problématique qu'on avait adressée dans les balados, là, dans plusieurs épisodes en arrière qu'on avait discuté, comme quoi que Honda avait des certains problèmes même à trouver des employés parce qu'on avait laissé énormément de personnel qualifié quitter, s'en aller de passer chez Red Bull, donc de rejoindre l'entreprise Red Bull Powertrain qui deviendra affiliée avec Ford. Donc ces gens-là, on n'avait pas nécessairement les ressources pour les ravoir, donc on est en train de développer de nouvelles embauches, d'essayer de trouver ce personnel-là, de retrouver des gens qualifiés afin de construire un bon groupe motopropulseur pour aider l'écurie Aston Martin à performer et compléter le plan là, que Lawrence Stroll nous avait présenté, qu'en dedans de 5 saisons, il voulait devenir une écurie aspirante aux grands honneurs. Donc, ça reste à voir, ça va faire partie de l'évolution d'Aston Martin, d'avoir leur propre moteur. On sait que présentement, depuis déjà plusieurs saisons, ils sont un client Mercedes. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de se conformer à ce que Mercedes décide, de construire leur voiture selon les dessins et selon les dimensions du groupe motopropulseur qui est élaboré par l'entreprise allemande. Là, on va avoir plus de liberté, on va être capable de faire des demandes directement à Honda, comme Red Bull le fait depuis qu'ils ont développé ce partenariat, qu'ils ont mis fin à leur entente avec Renault. Ça a grandement aidé Red Bull à retourner vers une équipe qui peut dominer la Formule 1 et gagner plusieurs titres. Donc, d'avoir cette liberté-là, d'être capable d'être un constructeur à part entière, là, de vraiment être capable de contrôler la conception du moteur. Dans un autre dossier qui touche un peu la conception, eh bien, c'est le dossier Alex Albon. Vous savez ce qui s'est passé avec son châssis en Australie. Bon, on a des nouvelles comme quoi que ça va bien, la reconstruction du châssis va bien et que ça devrait être prêt pour le Grand Prix du Japon. C'est James Vowles qui en a fait l'annonce comme quoi que les travaux étaient bien entamés à l'usine en Angleterre, qu'on puisse finir ça fin prêt, remettre ça sur un avion et de retourner ça pour le Grand Prix du Japon qui aura lieu la semaine prochaine. Albon aussi a aussi fait des commentaires comme quoi il n'était pas très content là, du début de saison et de la position de Williams. Il croit que Williams devrait être dans une position plus avantageuse. On a sacrifié beaucoup l'année dernière, comme il mentionne. On en avait déjà parlé ici au podcast aussi, comme quoi Williams avait préparé la saison 2024 très tôt en 2023, donc même lors du Grand Prix du Canada, on parlait déjà que Williams avait commencé à consacrer ses améliorations pour la saison 2024. Donc, on est un peu surpris là, dans le clan britannique qu'on n'est pas plus avancé. Là. C'est ce que Albon mentionnait, qu'il trouve ça de valeur d'être un peu en retrait. Il dit que les solutions sont dans la voiture. Il croit qu'on est capable de débloquer cette performance-là, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va demander un peu de temps, comme qu'il dit. Il dit quand on commence la saison un peu sur le pied arrière, qu'on est en retrait, qu'on est en retard, puis à ce moment-là, tout arrive plus tard. Donc, les améliorations, les nouvelles configurations de la voiture pour trouver les bonnes fenêtres de performance. Donc, à ce moment-là, ça vient compliquer un peu plus la donne. Donc, on va essayer de démêler ça, mais il pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse rattraper le peloton ou du moins revenir un peu, là, continuer de construire sur les bons résultats plutôt qu'on avait eu lors de la saison 2023. Parlant de mauvaises performances ou de performances plus compliquées, ben, il y a le nom de Daniel Ricciardo là, qui a fait l'état de plusieurs rumeur. On sait que ses performances ressemblent un peu à ceux de Nyck de Vries alors qu'il avait été remplacé la saison dernière chez AlphaTauri. Donc, il y a certaines rumeurs qui entourent ça. Je ne pense pas que ça a un lien directement. Je pense que c'est vraiment point de vue marketing. Mais il y a eu l'annonce comme quoi il cédera sa place au Grand Prix du Japon, du moins pour les EL1, donc les essais libres. Donc, la première séance d'essai libre qui aura lieu à Suzuka au Japon, on aura un alignement entièrement japonais. Donc, Yuki Tsunoda qui gardera sa place, qui est déjà un pilote de l'écurie Racing Bulls, et il aura à ses côtés un autre japonais. Cette fois-ci, c'est le pilote de 22 ans, Ayumu Iwasa, qui est un membre de l'équipe Red Bull Junior depuis 2021, qui évolue présentement en Super Formula. Donc, il aura une chance de faire ses preuves, d'essayer de conduire une Formule 1 aussi. Un petit coup marketing, là, on sera au Japon, donc d'avoir deux pilotes japonais pendant la première séance d'essai libre, ça va faire parler un peu des l'écurie, ça va faire montrer les voitures à la télévision japonaise, ça va faire vendre des chandails, vendre des casquettes, donc un beau coup marketing du côté de l'entreprise. On sait qu'ils sont très forts là-dedans du côté de Red Bull. C'est un peu de valeur un peu pour Daniel Ricciardo. Je pense que ces temps-ci, il prendrait toutes les séances d'essai libre qui sont à sa disposition pour être sûr d'être capable de retrouver sa touche. Il a perdu un peu disons sa magie, là, qui avait été disparu pendant un certain temps chez McLaren, qu'il avait quelque peu retrouvé la saison dernière, là, pendant, on parle plutôt du Grand Prix du Mexique, tout ça. Donc, de se faire priver d'une séance de célèbre, je pense pas que c'est l'idéal dans les conditions présentement, mais c'est une décision qui vient d'en haut, donc il doit se conformer. Il devra juste travailler plus fort lors de la deuxième séance et de la troisième séance d'essai libre. Parlant de nouvelles marketing, eh bien, j'enchaîne avec, si vous vous rappelez, on avait parlé ici au podcast que la saison dernière, on en avait parlé aussi sur notre page Facebook, comme quoi le Grand Prix de Vegas, l'événement qui a eu lieu au mois de novembre, allait générer des montants là, qui n'ont jamais été vus pour la ville, pour l'État du Nevada, et que même le Super Bowl qui s'en venait là quelques semaines après n'allait pas égaler les chiffres, les revenus en taxes que ça allait donner à la ville. Eh bien, on a eu raison, les gens qui avaient fait ces prédictions-là ne se sont pas trompées. Les chiffres ont été divulgués et puis la ville de Vegas a établi des profits records là, qu'on a réussi à aller chercher grâce à l'événement. C'est historique, c'est 1,5 milliard en retombées économiques que le week-end de Formule 1 a généré. Donc, tout ce qui a été généré par la Formule 1, là, qu'on parle des hôtels, des restaurants, tout aux alentours, ces dépenses-là, en taxes, qu'est-ce qu'on a été capable d'aller chercher là? Vous savez, on fait la même étude ici à Montréal quand on regarde le Grand Prix du Canada puis qu'on se rend compte que est-ce que c'est un événement qui vaut la peine, qu'est-ce que ça donne en touriste. Tu sais, c'est toujours, il y a toujours des limites à ce qu'on peut calculer ou vraiment voir qui sont les retombées de cet événement-là. Donc, il y a certainement plus qu'1,5 milliard que Vegas a généré, mais du moins, ce qu'on a été capable de calculer en retombées, mais c'est 1,5 milliard de dollars. On parle de un week-end de course qui a généré ça. Donc, même si ça l'a donné la grogne chez les résidents, chez certains commerçants, chez certaines personnes qui avaient des prédictions, ça serait probablement un flop, que c'était pas une bonne idée d'aller là, ben là, on voit que les chiffres se sont pas trompés. Liberty Media, la Formule 1, le Nevada, la ville de Vegas, le maire et compagnie avaient vu juste que c'était une place où on était capable pratiquement d'imprimer de l'argent, que c'était un événement qui allait rapporter énormément. Donc, si on parle, là, imaginez là, que si c'était événement-là. Là, c'était la première fois. Donc, peut-être qu'il y a eu un certain boom ou même peut-être qu'on va être capable de construire là-dessus et d'aller en chercher plus. Mais on se dit, si on est capable à tous les années, pour une ville de Vegas, de rentrer 1,5 milliard de dollars dans les coffres juste avec un événement comme ça qui revient pour une fin de semaine par année. Donc, je pense que ça en vaut le coup et les investissements qui sont rattachés à ça. Parlant d'événements, mais on a un événement qui concerne le Canada. Malheureusement, ce n'est pas Montréal qui va l'avoir, c'est Toronto, mais on peut se consoler. Nous, on a le Grand Prix, on a les voitures en action. Eh bien, c'est le F1 Exhibition. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un musée qui se promène à travers le monde, qui avait débuté à Madrid. Il y a aussi eu une édition à Vienne. Eh bien, la prochaine édition du F1 Exhibition se tiendra à Toronto au mois de mai. C'est un événement là, pour les amateurs de F1 ou même les gens qui veulent découvrir le sport, qui est à ne pas manquer. On a eu des belles images, là, même si on n'a pas eu la chance d'aller le visiter en personne. Ce qu'on a pu voir à travers les photos, à travers les gens qui ont vécu l'événement dans les premières éditions à Madrid ou à Vienne, C'est vraiment une expérience là, de Formule 1 qu'on peut vivre. Il y a plusieurs, il y a des écrans géants, il y a des simulateurs, il y a des artefacts. Je pense justement à la voiture de Romain Grosjean qui avait été en exposition lors de la première édition. On avait aussi la voiture, la AlphaTauri, qui avait remporté le Grand Prix de Monza, si je me rappelle bien, de Pierre Gasly, qui avait remporté. Donc, on avait la voiture sur place. Donc, on avait plein de petites choses comme ça, les casques des pilotes. Donc, c'est vraiment un musée, là, comme on est capable de voir, là, décidément, comme le temple de la renommée du baseball, on a aussi le temple de la renommée du hockey qui est à Toronto. Mais là, à ce moment-là, c'est un musée comme ça qui est consacré entièrement à l'histoire de la Formule 1. Sur toutes les histoires, là, on est capable de retracer autant les époques de Ayrton Senna, les époques avant ça, du début de la Formule 1 aller jusqu'à plus tard. C'est vraiment une expérience 100% F1. On dit même que ça prend environ une journée à vraiment faire toutes les activités et visiter. On demande même de prendre un rendez-vous. Donc, si vous voulez réserver vos billets, là, il y a des heures que vous pouvez réserver pour avoir vraiment un temps à vous. On parle d'environ entre une quarantaine à soixantaine de dollars pour se procurer des billets. C'est bien sûr par personne. Et puis à ce moment-là, on a aussi des forfaits VIP qu'on offre qui dépassent là, les centaines de dollars, mais qui vous donnent des accès un peu privilégiés. On parle de 10% aussi pour la marchandise qui est vendue sur place, toutes ces choses-là, parce qu'il y a aussi un grand magasin, là. Je pense qu'on parle de plus de 20 000 pieds carrés qui va avoir là-bas là, consacré à la Formule 1. Donc c'est un événement qui est très intéressant, qui s'en vient au Canada. C'est la seule date qu'on va avoir en Amérique du Nord. Donc je pense pas que ça va revenir là, pour les gens qui peuvent dire, oh, on va attendre que ça vienne à Montréal, ça va venir dans quelques années. On risque d'attendre quand même assez longtemps parce qu'il y a plusieurs villes qui sont satisfaites. Liste d'attente-là. C'est Bell qui organise ça avec TSN. On sait que Bell est un promoteur du Grand Prix du Canada depuis déjà quelques saisons. Donc, on a décidé d'aller vers Toronto. Je pense que du côté stratégique, c'est quand même brillant. Oui, Montréal, on a déjà l'événement du Grand Prix. Donc, d'agrandir cet événement-là ailleurs dans le Canada en emmenant au mois de mai, avant le Grand Prix, d'emmener un événement comme ça de cette envergure-là, présenter la Formule 1 à un marché, au marché ontarien, leur donner peut-être l'envie d'acheter des billets et d'être à la course le mois suivant. Donc, je pense qu'on a bien fait ça du côté stratégique. C'est un peu de valeur pour nous qu'on n'a pas ça, mais comme je vous dis, on peut se consoler quand on va voir les rouges s'éteindre au circuit Gilles Villeneuve au mois de juin et qu'on va avoir le droit à une vraie course, à un vrai 3 jours d'activité avec les vrais Formule 1 qui roulent devant nous. Et on peut toujours se déplacer là, pour des gens qui ont des vacances acidulées d'aller à Toronto. C'est pas si loin que ça pour avoir une entrée, vivre cette expérience-là pour 40 à 60 $. Donc, c'est quelque chose qui est relativement abordable. Mais bien sûr, il faut prévoir le déplacement et l'hébergement si on veut passer notre journée à Toronto. C'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons au segment entre deux courses et faisons place à nos invités de la semaine. Aujourd'hui à l'émission, me fait plaisir de recevoir deux invités et tout d'abord, c'est sa première fois à l'émission. C'est un passionné, c'est aussi pratiquement un historien de la Formule 1. Il a d'ailleurs un projet de livre en cours qu'on pourra vous tenir au courant en temps et lieu. Kevin Fontaine, alias le Petit Fontaine, comment ça va et bienvenue au F1 Podcast.
Merci, ça va super bien, toi?
Hey, ça va super, merci. Je suis bien content de te recevoir. Notre deuxième invité qui est ici, c'est sa deuxième fois à l'épisode. Vous le connaissez peut-être déjà. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, on a eu une entrevue avec lui qu'on a réalisée plus tôt dans la saison. C'est un pilote, c'est le champion de Formule F2000, la série américaine, Jean-Christophe Tran. Re-bienvenue au F1 Podcast.
Ben oui, merci encore de m'avoir. C'est un grand plaisir de pouvoir discuter de tout ça en détail. On a beaucoup sur la planche.
Oui, on en a beaucoup sur la planche. C'est passé, il y a bien des choses, même s'il y a juste eu 3 épreuves à la saison. Le premier sujet que je vais aborder avec vous, c'est le dossier Williams et le dossier Alex Albon. Pour faire une remise en contexte, Alex Albon a eu une collision lors des séances d'essais libres en Australie. Williams n'avait pas de châssis de remplacement, donc il a endommagé plus particulièrement justement son châssis. On n'avait pas de remplacement pour lui. Ce qu'on a fait, on a décidé de prendre celui de son coéquipier Logan Sargeant et de le transférer à lui pour le reste du week-end. Je veux commencer en m'adressant au pilote, lui demander, admettons que tu es dans les souliers à Logan Sargeant, un Jean-Christophe Trahan réagit comment?
Mettons vraiment, on me transporte dans les souliers et dans l'esprit de Logan Sargeant. Mais moi, je serais furieux, absolument, absolument d'aucunement mon accord ou de ma faute, je me fais enlever les chances de prouver un autre week-end de plus. En plus que, mettons, ma famille et mes connexions apportent le gros des ressources à Williams, là, je me sentirais vraiment dépourvu. Malgré que, quand on regarde la situation de plus haut, ça fait du sens. Ça fait du sens. Je veux dire, clairement, Albon, c'est le meilleur pilote des deux. C'est une décision purement stratégique. on se donne la meilleure des chances, même si ça n'a pas marché. Fait que
C'est
moi, c'est
ça.
vraiment ça, là.
Mais d'un point de vue personnel, la pilule est dure à avaler parce qu'un compétiteur ne veut jamais se faire enlever le droit de compétitionner, surtout pas sur un week-end de course, surtout quand c'est pas de ta faute. Ça, c'est le côté.
Exact, exact. C'est vraiment ça, là. C'est que c'est aucunement de sa faute. Il n'y a rien qu'il aurait pu faire. C'est 100%
Exactement.
de la faute à Albon, qui, tu sais, fait un immense accident à FP1, comme, à bravo. Puis là, c'est de ma faute maintenant. OK. C'est sûr
Ouais.
que, je suis sûr que, il l'a dit, là, c'est une des décisions les plus dures de sa carrière. Si c'est pas la plus dure, je le comprends totalement.
Puis si je me transporte de ton côté, Kevin, en tant que partisan passionné de Formule 1, toi, t'as vécu ça comment, cette situation-là?
Ben écoute, James Valls, il a fait un choix. C'est un choix qui est discutable, mais c'est un choix judicieux pour aller chercher le meilleur résultat possible pour l'écurie. Ça montre la confiance qu'il a envers Albon pour permettre à Williams d'aller chercher le plus de points possible. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé en Australie. Le rythme d'Albon n'était pas suffisant pour viser le top 10. Il y avait beaucoup de graining sur ses pneus, puis les Haas étaient en bien meilleure position pour aller chercher des points. Il y a eu une petite erreur stratégique pour Magnussen, mais bon. Pour ce qui est de l'échange du baquet, je trouve ça vraiment dommage pour Sargeant parce qu'il n'a rien demandé. Comme Jean-Christophe a dit, il subit tout simplement là, qu'est-ce qu'il en est. Au final, il est mis sur la touche. Ce n'est pas lui qui a fait l'accident, c'est son coéquipier. La Formule 1, c'est un sport qui est cruel. La décision a sûrement été hyper difficile à prendre pour James Valls. Mais en fin de compte, tu vas avoir les meilleures chances d'inscrire des points dans une course, puis surtout dans une course qui a vu les principaux acteurs abandonnés, là. Fait que c'est dommage pour Albon d'avoir fini 11e, mais c'est déjà quand même un beau cadeau de fête que Williams lui a fait après s'être accidenté aussi, là. Fait
Ouais.
que c'est pas pour discréditer Sargeant, mais au niveau talent brut, puis pour l'apport de résultats, le choix de le remplacer par Albon, ben c'était quand même le bon, là,
Moi,
malgré tout.
je trouve ça intéressant déjà de vous avoir les deux avec moi aujourd'hui parce que je pense que vous amenez les deux à un point que je partage, dans le sens que je comprends exactement que Jean-Christophe, dans cette situation-là, tu es le pilote, tu n'as pas commis l'erreur, tu ne veux pas te faire enlever la chance de performer, de pouvoir montrer ton talent. Surtout, il a touché un point tantôt, il a dit c'est une chance de se faire valoir parce que Logan Sargeant est dans cette position-là, d'avoir des chances, il est toujours en audition en Formule 1, même si c'est
Exact.
sa deuxième saison. Donc, il se fait enlever cette chance-là. Puis j'aime le côté que Kevin touche aussi, qu'on est dans un sport qui n'est pas nécessairement, oui, des fois on va dire, ah, c'est pas juste, mais c'est pas un sport de juste. C'est un sport de résultats, de performance. Et c'est justement ça que James Ross a pris la décision. C'est sûr que n'importe qui regarde ça avec son cœur puis se dit, hey, ça, c'est pas juste, qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est un sport d'élite. Puis souvent, c'est pas nécessairement être juste. T'sais, on peut remettre en contexte aussi que c'est déjà arrivé cette situation-là par le passé. Il n'y avait pas eu une collision, mais il y avait Lewis Hamilton chez Mercedes qui trouvait que le châssis de Valtteri Bottas semblait mieux. Semblait meilleur que le sien, puis on avait procédé au changement. On avait carrément pris le châssis à Valtteri Bottas, puis on l'avait transféré dans la voiture à Lewis Hamilton. N'importe qui regarde ça de l'extérieur dit, hey, ça, c'est pas juste, sauf que c'est une business de résultats. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que James Valls y a été. Puis je pense qu'il a déjà mis son sceau de leadership là, en tôt, déjà, même si c'est sa deuxième saison, que Williams y a montré qu'il est là pour prendre des décisions, les décisions nécessairement, pas pour être gentil, mais pour le bien de Williams en tant que tel. Je vous emmène à un autre dossier qui est quand même, on parle d'être juste ou pas juste, ça a attiré beaucoup l'attention, ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis nous autres sur le F1 Podcast, vous savez, on donne toujours l'opportunité aux auditeurs, aux personnes qui nous suivent de pouvoir discuter de ça. Puis ça a été vraiment le sujet là, depuis le Grand Prix d'Australie, plus que la victoire de Carlos Sainz. Ça a été la pénalité de 20 secondes qu'on a donnée après la course à Fernando Alonso. Remise en situation, on a jugé que sa conduite était erratique, qu'il a modifié sa conduite par rapport aux autres tours. Puis là, on a décidé de dire que c'est lui qui était possiblement, même si on n'était pas capable de le prouver, qui était possiblement la cause de l'accident de George Russell. Je commence avec toi, Kevin, là-dessus. Comment tu as trouvé cette situation-là, au Grand Prix d'Australie?
Moi, je trouve vraiment que c'est une pénalité qui n'est pas méritée, mais même pas proche, là. C'est vraiment du poids décisionnel et du poids politique que Mercedes a pour pouvoir un peu retourner la situation puis essayer d'aller retrouver un petit peu, de se rapprocher de leur compétiteur direct par des fins politiques. Clairement, là, clairement, c'est tellement écrit dans le ciel. En plus, George, c'est lui qui a fait l'erreur qui lui a provoqué cet accident-là.
Ouais.
C'est
Là,
vraiment lui
si les
qui a
auditeurs sont
spoilé 7 mètres plus
mélangés,
tard, là.
Si les auditeurs sont mélangés par la voix, ce n'est pas Kevin qui répond à la question, c'est bien Jean-Christophe, mais
Oh!
c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est
J'ai
juste.
rien entendu du dernier, fait que j'ai comme assumé que c'était à moi, mais je vais. D'abord, je m'excuse de la confusion, là.
Non, non, c'est
Je vais
correct.
continuer dans mon stride.
Je voulais ton opinion aussi, je voulais ton opinion là-dessus aussi, mais c'est juste, je me suis dit, les gens sont pas habitués encore aux les voix. Ils m'ont dit que là, il parle pas mal comme Kevin, lui. Il parle comme, pas mal comme Jean-Christophe, je veux dire. C'est ça, fait que toi, ta vision du pilote, c'est que tu n'as pas nécessairement, tu trouves pas que l'erreur est attribuée. Tu sais, mais gars, je vais te lancer sur cette question-là pendant que t'as pris la situation. Fernando Alonso, là, il met dans son commentaire, moi, j'ai trouvé ça bon. Il dit, je trouve ça surprenant qu'on décide de nous dire comment piloter nos voitures. Et c'est une pratique courante, ça fait partie de l'art du sport automobile, de freiner et de vouloir comme casser le momentum à un pilote qui nous suit en virage. Toi, trouves-tu que c'est pratique courante? C'est-tu quelque chose que vous apprenez dans vos écoles de pilotage ou c'est-tu quelque chose que tu mets en pratique sur la piste?
Ça fait partie de la finesse et de l'art de pilotage qui est bâti avec l'expérience. Alonso est devenu très, très bon à ça avec les années. Si on regarde, mettons, les vieilles courses, là, même dans son début de sa carrière, lorsqu'il, particulièrement Imola en 2005, là, quand il était vraiment vis-à-vis Michael Schumacher, cette course-là, là, il l'a fait, il a fait ce qu'il a fait à George de maintes fois et pire. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Non. Parce que c'était Schumacher qui le suivait, c'était pas George Russell qui était dans l'une, en train de changer des settings de map sur son moteur pour la ligne droite, qui a freiné 7 mètres trop tard, qui était dans l'air sale, qui a perdu l'auto, puis qui l'a mis dans le mur comme un grand tout seul. Ça, puis on regarde là, les traces de freinage et d'accélération d'Alonso, sont très similaires. C'est pas de grosse différence. Ça a juste été exacerbé parce que George a fait une erreur. Puis ça, c'est 100% de sa faute. Puis c'est aucunement sur le dos de Alonso. On pourrait même pas parler de sa faute s'il y avait un nez à l'intérieur en essayant de le dépasser. Même à ça, Alonso, il est celui qui est en avant, c'est lui qui prend l'apex, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel du virage. Aucunement, George là-dedans a son mot à dire.
Toi, Kevin, est-ce que tu partages cette opinion-là?
Ben écoute, je ne suis pas pilote de course, là, mais écoute, à mon avis, tout le monde doit avoir son opinion, c'est super correct aussi. Je pense que la pénalité d'Alonso est principalement due aux conséquences de l'accident de Russell. Parce que le virage 6, il se prend assez rapidement depuis sa modification il y a quelques années. Et je trouve que la configuration du virage avec le bac à gravier et le mur, c'est pas idéal quand il y a un accident. Parce que
Exact,
l'année
ouais.
passée, Albon est sorti de piste à cet endroit-là en début d'épreuve. Puis il y a eu un drapeau rouge alors qu'il était en plein sur la trajectoire de course. Cette année, en FP1, il monte trop sur le vibreur, il perd le contrôle, va percuter le mur à droite du virage 7 pour ensuite revenir frapper sur la gauche. Il n'aime pas bien ben ce virage-là, Alex, je pense. Puis en F2, dans la course principale, Dennis Hauger, il a subi le même sort, puis il s'est immobilisé sur la trajectoire de course. Si le mur était plus reculé et que le bac à gravier était plus grand, je pense que les monoplaces rebondiraient pas jusqu'à la trajectoire de course en créant une situation dangereuse. Puis pour la pénalité d'Alonso, je la trouve sévère, oui, mais je pense que c'est principalement dû au fait que Russell s'est accidenté. Si c'était une zone de dégagement asphaltée, peut-être qu'il aurait pu contrôler sa Mercedes et reprendre la piste, puis on n'aurait probablement même pas eu toute cette histoire-là. D'un côté, Russell, il admet que c'est son erreur. Il l'a dit en conférence, là. Il a dit, c'est mon erreur, j'ai fait ça. Mais les commissaires ont trouvé qu'Alonso était coupable de conduite erratique. Encore là, ça, c'est l'avis des commissaires. Et ils lui ont donné une pénalité. Fait que moi, je ne crois pas que le but d'Alonso, c'était de causer un accident à Russell, là, loin de là. Je peux comprendre la pénalité, mais de mon point de vue, je trouve que c'est principalement lié aux conséquences, là, de ce qui s'est passé.
J'aime le point que tu emmènes aussi parce que ça me fait penser un peu le sujet que tu emmènes. C'est un peu qu'est-ce qu'on vit à Spa. Que ça pourrait arriver qu'on ait un accident justement en Australie. On a un fameux virage à Spa dans la montée où ce que les gens, aussitôt qu'il y a une collision, justement, on a eu Charles-Antoine, c'est Hubert qui avait perdu la vie justement là-bas. Puis on a eu d'autres collisions, justement, le Néerlandais là, l'année dernière qui a perdu, là, je m'excuse, son nom m'échappe, qui était dans une plus petite série, je pense que c'était en Formule 3. Quoi que ce soit qui avait perdu la vie là, mais en cognant en haut, souvent, ce que ça fait, c'est que la voiture revient en piste. Donc là, on est chanceux en Australie, on n'a pas vécu ce genre d'accident-là, mais ça pourrait arriver. Donc, j'aime le point que tu emmènes que oui, ça devrait être quelque chose que les commissaires regardent, non seulement pour les prochains Grands Prix, là, parce que pour être sûr que ça, on n'ait pas une situation qui soit plus grave que ça. Et oui, ça attire beaucoup plus l'attention, le fait que ça fait une voiture qui est de retour, qui est retournée sur le capot en plein milieu de la piste, que là, à ce moment-là, on a plus puni la conséquence que le geste en tant que tel. Là, on a plus eu peur, puis là, on a dit, oh, ça a attiré notre attention, donc il faut que ça prenne un coupable. Donc, on a décerné 20 secondes de pénalité à Fernando Alonso. Moi, je partage votre opinion, les deux. Je pense que Ça fait partie de la course automobile, ce qu'Alonso a fait. Ça fait assez longtemps qu'il est en course. Puis il nous a appris par le passé qu'il est capable de mener des bagarres sans que ça mène en accident. Donc, puis George Russell, lui, c'est le contraire. Il nous a montré qu'il a tendance, plus souvent qu'autrement, à quand il est impliqué dans une bagarre, roue contre roue ou voiture contre voiture, là, que ça vient un peu chaud, bien, à prendre le champ ou à faire des collisions, là. D'ailleurs, je pense que Max Verstappen avait un bel exemple d'un beau trou dans le côté de sa voiture, là, l'année dernière à Bakou, suite à une bagarre avec George Russell. Parlant de bagarre, ben là, je vous emmène dans une bagarre de trouver un emploi pour l'année prochaine. Il y a un gars, je pense, qui a fait une très belle audition en Australie, puis on pourrait dire même depuis le début de la saison, c'est Carlos Sainz, lui qui est le seul pilote à avoir gagné des courses autres que les pilotes Red Bull dans les dernières saisons, mais il ne se retrouve qu'à pas de volant l'année prochaine. Là, je vais commencer avec Kevin sur celle-là. Kevin, qui devrait embaucher Carlos Sainz?
Ben écoute, c'est sûr que ça lui fait une belle carte de visite à Sainz après sa victoire, puis surtout après son opération pour l'appendice, là aussi, là. Fait que, tu sais, Sainz, c'est un pilote d'expérience. C'est un très bon gestionnaire avec ses pneus dans un Grand Prix. Il a une bonne analyse de la course. Puis je pense qu'il n'y aura aucun problème pour se trouver un volant l'année prochaine. Là, comme tu dis, c'est où il va être, parce que les rumeurs se font aller de gauche à droite chez Red Bull pour une place aux côtés de Verstappen en remplaçant Pérez. Christian Horner l'a mentionné, il est intéressé. On parle de chez Mercedes pour remplacer Hamilton. Ça peut être une belle association avec Russell aussi. Chez Aston Martin pour remplacer Alonso s'il quitte pour aller voir ailleurs. Chez Steak Kick Sauber, peu importe comment on va les appeler, pour rejoindre le projet Audi. Sainz, comme je l'appelle, c'est un pilote passe-partout. Il a beaucoup de connaissances, puis les informations qu'il a acquises chez Ferrari, ça peut être très utile pour une arrivée dans une nouvelle écurie. Écoute, il a un super bon début de saison, puis qui sait ce qui se serait passé à Jeddah s'il n'avait pas dû déclarer forfait? Il aurait peut-être pu encore sortir un super résultat, puis il serait au niveau de Leclerc et de Pérez, il serait peut-être quelques places plus haut, là. Fait que, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il va aller l'année prochaine, mais je ne suis pas inquiet pour lui qu'il va se trouver un baquet, c'est sûr et certain.
Selon toi, il est candidat partout. Il peut être un candidat sur
Pas mal partout, oui.
toutes les équipes que tu as nommées qui se cherchent un pilote l'an prochain. Pour ce qui est de toi, Jean-Christophe, t'en penses quoi?
Si j'avais vraiment une main divine là, puis je pouvais organiser ça pour que ce soit vraiment optimal pour tout le monde, je crois que sa meilleure décision, son meilleur choix, ça serait probablement pour sa carrière. En tout cas, il a, encore une fois, on a mentionné, il est rendu, tu sais, fin vingtaine, début trentaine, il commence vraiment à dans la fleur de l'âge avec son expérience. Puis vraiment, depuis fin 2023, la dernière moitié de la saison, il est vraiment exceptionnel. Meilleur que Leclerc, dans mon opinion. Puis moi, il devrait être chez. Il devrait être pas bon deuxième, mais comme un genre de le couteau suisse de Red Bull. Où est-ce qu'il peut gérer les courses, il va tout le temps avoir des deuxièmes places en banque. Puis là, quand ça leur tente, ça va mieux que la stratégie pour leur switch avec Max. Il est facilement capable de tenir avec une bonne voiture, tout le monde en arrière, puis aller chercher des victoires quand ça compte. Et après ça, Pérez, je trouve qu'il serait mieux chez Mercedes. Il a fait son temps. Lui, il est rendu encore une fois, encore une fois avec son expérience, peut-être qu'il va aider à être un peu plus comme le leader de Mercedes, côté développement et tout ça. George Russell, je trouve encore, malgré ses bons résultats, malgré son très bon pace, il est souvent meilleur qu'Hamilton. Je trouve vraiment qu'il manque d'expérience, qu'il manque
Maturité.
juste de maturité, exact. Il fait souvent des drôles d'erreurs. Encore une fois, là, en Australie, le contact avec Verstappen à Bakou. Quand il est rentré, je sais pas c'est dans qui, mais c'était en Autriche, là, il avait sorti dans le gravier, je pense que c'était Pérez ou quelque chose comme ça.
C'était contre Sergio Pérez, si je me rappelle
Ouais,
bien
c'est
aussi.
ça. Oui, juste des. C'est avec Bottas quand il était chez Williams à Imola. Toutes ces affaires-là, je trouve que malgré que c'est dans le passé, ça ressort un peu tout le temps dans son pilotage. Puis je trouve que Pérez serait un bon phare ou une bonne base pour pouvoir un peu mieux solidifier Mercedes pour s'ils veulent aller vers l'avant. Idéalement, je crois que pour tout le monde, ça serait vraiment la meilleure situation dans ces dynamiques-là. Il serait pas bien barré chez Audi. Ça le prendrait au moins 4 ans pour être semi-compétitif. Puis là, il serait dans sa trentaine avancée, Carlos, là.
Ouais.
Fait que ce serait vraiment pas un bon mot pour lui. Fait que moi,
Où
je verrais ça comme ça.
je partage ton opinion avec ça, c'est que Red Bull présentement, là, on regarde ça, là, même si on peut peut-être juger que Sergio Pérez a un bon début de saison, présentement, là, c'est 97-93 au championnat des constructeurs. Donc, ce qui arrive là, dans les prochaines saisons, dans toutes les équipes qui sont aux alentours de Red Bull, on a deux bons pilotes. Sergio Pérez, en fin de semaine, c'est peut-être pas de sa faute. On ne peut lui attribuer l'erreur, on n'est pas obligé. Mais il y a eu une pénalité en qualification qui a coûté probablement peut-être une possible victoire en Australie ou du moins une deuxième place. Donc, à ce moment-là, s'il ramasse ces points-là, Red Bull a une avance qui est plus. Il y a une plus grande avance au championnat des constructeurs. Là, présentement, à cause de cette erreur-là, que ce soit à lui, que ce soit un ingénieur, mais à longue, ça arrive souvent des erreurs le samedi. Pareil, ça met Red Bull dans une situation où on est plus serré au championnat des constructeurs qu'on devrait l'être. Puis ça va continuer comme ça parce qu'on a deux bons pilotes chez McLaren, on a deux bons pilotes chez Mercedes, dépendamment de la décision qu'on va prendre l'année prochaine. Mais avec Hamilton qui va s'en aller, je vous mets en situation. Admettons qu'on sait qu'Hamilton s'en va chez Ferrari, donc on a Leclerc-Hamilton, on a Norris puis Piastri chez McLaren, puis admettons qu'on a Sainz puis Russell chez Mercedes. À ce moment-là, Red Bull se retrouve un peu en déficit de dire si Perez ne lit pas la marchandise puis n'est pas capable d'accumuler des points de façon aussi constante. On ne peut pas dire aussi constante que Verstappen, mais de façon comme il devrait le faire, Red Bull pourrait se retrouver dans le trouble. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué que si ça devrait l'être au championnat des constructeurs.
Totalement, totalement. Je vais laisser Kevin suivre après, mais la suprématie Red Bull ne durera pas une éternité. Fait que ça va, il va vraiment être le talon d'Achille Sergio Perez lorsque le niveau du peloton va être un peu plus nivelé. Moi, c'est mon opinion.
Kevin, tu voulais
On
ajouter
arrive.
quelque chose?
Ouais, ben on arrive dans un resserrement hiérarchique depuis la nouvelle réglementation technique en 2022. Ça va se continuer cette année, 2025, et jusqu'à temps qu'on ait la réglementation moteur de 2026. Fait que là, les performances des voitures vont se rapprocher, puis ça va être hyper important pour Red Bull d'avoir un deuxième pilote performant qui est capable de saisir les opportunités, ce que malheureusement, Perez n'est pas toujours capable de faire. Fait que c'est sûr que d'avoir Sainz, ça peut être une belle opportunité pour Red Bull de maximiser les chances de prendre le plus de points possible là, face à la concurrence.
C'est ça, parce que si on regarde le présentement, Sergio Pérez, OK, il nous a habitués par le passé. Les débuts de saison sont forts parce que c'est des circuits. Normalement, on a beaucoup de circuits urbains en début de saison. C'est plus concentré là, puis on le sait, c'est le roi des circuits urbains. C'est un titre qu'il a acquis à travers des années. Ses victoires sont à 80, 99% sur des circuits urbains, là, je dirais même 100%. Donc, une fois qu'on va passer cette période-là, là, que Monaco, Baku et compagnie va être passée, on va retourner là, dans les virages rapides, là, les Silverstone, les Grands Prix d'Autriche, les places comme ça. Donc, à ce moment-là, normalement, il a énormément de misère à se faire justice. Donc, là, on devrait créer un déficit du côté du championnat des constructeurs, là. On va avoir de la misère à accumuler des points à deux voitures. Donc, on va ouvrir la porte à nos adversaires. Donc, c'est pour ça que ça va devenir. Non seulement, je pense que ça va être c'est Jean-Christophe qui mentionnait le talon d'Achille. Ça va être le talon d'Achille de Red Bull au cours de la saison. Puis ça va devenir de plus en plus, ça va être exponentiel au cours des prochaines saisons parce que les autres équipes ont des bons duos. Puis ça va se resserrer cet étau-là, là. Donc, je partage exactement votre opinion là-dessus. Autre sujet que je voulais emmener aujourd'hui, depuis le début de la saison, vous n'êtes pas sans savoir que le DRS est maintenant activé après un tour. On a vu ça, là, depuis le début de la saison. Vous en tirez quoi comme conclusion depuis le début? Est-ce que vous achetez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, ah oui, ça a amélioré le spectacle ou non, j'aime pas ça? Ou vous trouvez que l'échantillon est encore trop petit là, pour qu'on puisse vraiment en parler puis tirer des conclusions là-dessus, là? Je vais commencer avec toi, Jean-Christophe, là-dessus.
Bien honnêtement, moi je l'ai su au deuxième Grand Prix. Fait, ça prouve que pour moi, personnellement, je trouve pas que ça fait aucune différence. Les voitures sont déjà toujours sont toutes très rapprochées, donc c'est juste un train qui est plutôt. Peut-être dans une situation donnée où est-ce que, mettons, il y a quelqu'un qui suit à 2 secondes, celle en avant, et l'autre en arrière se suit par 1 seconde. Là, peut-être qu'il y a un avantage. Mais c'est un tour. C'est pas la fin du monde. Mais au moins, ils font ce qu'ils peuvent pour voir donner des nouvelles techniques pour essayer de rapprocher les pelotons, les voitures, s'assurer de plus proche, qu'on ait plus de bataille. Ça, je suis tout pour ça, avec les circonstances que les voitures sont trop lourdes et, encore une fois, pas assez efficaces dans leur traînée aérodynamique pour avoir des batailles comme dans le temps où est-ce que les voitures pèsent rien. Il y avait pas, l'aérodynamisme n'était pas hyper évolué comme aujourd'hui. Ils peuvent savoir ce qu'ils peuvent. Si ça marche, puis il y a des résultats concluants, moi, je les ai peut-être pas vus, mais s'ils sont concluants avec des statistiques, tout ça, moi, je suis tout pour ça, là.
Toi, Kevin, tu as trouvé ça comment jusqu'à maintenant depuis le début de la saison?
Ben écoute, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Ce n'est pas une décision qui me pose problème, pour être bien franc, là. Ça peut être bénéfique dans plusieurs cas lorsque le peloton est plus regroupé pour tenter de gagner des positions le plus rapidement possible. Parce que parfois, les voitures peuvent être prises dans un train DRS, puis là, ça devient assez ennuyeux. Ça, on parle un petit peu plus tard dans la course, souvent, là. Donc, pour optimiser leur chance de gagner des positions et d'activer le DRS après un seul tour, moi, je ne vois pas de problème. Parfois, certaines voitures se comportent mieux sur un type de tracé que d'autres, dépendant de la philosophie aérodynamique de la monoplace, etc., etc. Et si une écurie s'est mal qualifiée, plus vite on peut profiter du DRS pour revenir vers l'avant, mieux c'est pour eux. Puis comme dans toute chose, là, il y a des avantages et des inconvénients, puis l'utilisation du DRS, ça ne fait pas exception.
Moi, j'ai trouvé, pour ma part, là, j'ai trouvé que j'ai pas vu de résultats à ça. Puis je pense qu'il y a peut-être eu plus de résultats négatifs que positifs. Je sais que ça l'a pas donné. On n'a pas eu nécessairement les plus grandes bagarres, les plus grands dépassements depuis le début, de la saison. Je n'ai pas les statistiques. C'est quelque chose que je vais sortir au cours des prochaines semaines parce que je trouve ça intéressant de se pencher là-dessus. Que je pense qu'on a eu moins de dépassements dans les premiers tours que comparativement aux autres saisons, aux saisons antérieures. Je pense qu'on a un train qui se dessine beaucoup plus rapidement. Je suis en faveur du fait qu'on donne le DRS tout de suite après la voiture de sécurité, qu'on n'attende pas encore là, 2, 3 tours une fois que la voiture de sécurité. Ça, je trouve ça. Mais en début d'épreuve, je pense que ça gâche un peu. Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, là, de ce que j'ai vu des premiers Grands Prix, je pense que ça crée un train DRS trop rapidement, puis ça nous prive sur des dépassements qui sont normalement là en début d'épreuve parce que les pilotes ont des pneus neufs. Il y en a qui n'ont pas nécessairement monté la température exacte tout de suite sous la voiture, derrière la voiture de sécurité. Donc, des fois, il y a ce petit écart-là naturel qui se fait entre les voitures au départ. Puis je pense que ça nous a privés de ça depuis le début de la saison. Mais ça, c'est mon opinion. C'est ce que moi, je pense que j'ai vu. De votre côté, tu sais, Jean-Christophe mentionne qu'il n'a pas vu vraiment une différence. Kevin, c'est un peu ça dans ce côté-là que tu allais aussi nécessairement. Donc, je suis content qu'on l'essaie, mais pour l'instant, je pense que ça nous prive peut-être un peu du spectacle. Mais ça, comme je vous dis, c'est ma perception depuis le début de la saison. Mais j'ai hâte de voir là, avec peut-être que sur d'autres circuits. Comme Kevin mentionnait, souvent sur d'autres circuits, des fois, ça donne, c'est plus propice, le DRS fonctionne mieux, puis ça est plus propice à donner un meilleur spectacle. Peut-être que c'est juste pour l'instant les tracés de début de saison qui n'ont pas offert là, la plus grande efficacité au DRS après un tour.
Ah, ça,
Oui, vas-y, vas-y,
ouais,
tu voulais
ça fait très
rajouter?
bien.
Oui.
J'ai vu ça, je me disais, c'est justement, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, potentiellement. Peut-être qu'il y a des circuits, parce qu'il y a des preuves de statistiques qui le prouvent, peut-être que des circuits seraient mieux de le partir après 2 tours, puis certains un tour. Peut-être. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être une question qui demande beaucoup, qui se consomme beaucoup de temps, mais qui on sort pas grand-chose. Fait qu'on verra comment la FIA décide de juger ça. Moi, ultimement, je suis confiant qu'ils vont prendre la bonne décision, là.
Mais je te donne, c'est bon ce que tu emmènes, tu sais, un circuit, je te donne un exemple. Mettons, on s'en va à Spa. Après un tour, les pilotes vont tous arriver en haut de la côte, puis ils vont tous avoir le DRS. Est-ce que ça va donner le meilleur spectacle qu'on aura jamais vu ou ça va donner le plus gros train de DRS qu'on aura jamais vu qui va durer tout le restant de la course? Tu sais, c'est là aussi je pense que ça va être une belle place pour faire l'étude, de dire dans cette grosse ligne droite-là dans la montée, est-ce que vraiment ça va nous donner le meilleur des spectacles ou plutôt ça va juste gâcher la course au complet, là?
Eh bien, ouais, exact. On le verra en temps et lieu, mais ce serait vraiment intéressant de plus.
À suivre, c'est
C'est sûr,
ça,
ça
c'est.
dépend. Ouais. C'est
Ouais,
sûr, ça
vas-y.
dépend aussi de certains circuits, puis de la nature, admettons, des premiers secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus techniques, puis des circuits où les premiers secteurs sont beaucoup plus rapides, là, comme tu disais à Spa, justement. On passe le virage de la source, on descend vers au rouge, puis après ça, on remonte vers le raidillon, puis c'est à fond jusqu'au freinage. Et il y a des circuits comme admettons, on prend de l'Arabie Saoudite parce qu'on y a été il n'y a pas si longtemps que ça. Bien, le premier secteur il est assez technique. Là, il y a une certaine rapidité, mais c'est pas comme le premier secteur, admettons, à Bahreïn, là, tu sais, où on a
Non.
la grande ligne droite, freinage brusque. On repart après ça, ligne droite, bon freinage aux quatre. D'après moi, ça va vraiment dépendre là, de certains circuits qui vont être plus propices à avoir des dépassements que d'autres, par exemple.
Mais tu as vu, tu as emmené Bahreïn dans le dossier. Moi, c'était une place où j'aurais cru que le DRS après un tour aurait donné un spectacle. Puis je trouve qu'on a probablement eu le Grand Prix de Bahreïn, mais avec le moins de dépassements ou le moins d'actions dans les 10 dernières années, là. Puis pourtant, on avait le DRS après un tour. Fait que justement, on dirait que. Moi, je m'attendais, là, tu l'as mentionné exactement, que cet endroit-là donnerait une compétition. Puis à la place, je pense que c'est juste venu faire jeu égal pour tout le monde, puis tout le monde s'est suivi, puis on n'a pas eu cette compétition-là. Tu sais, rappelez-vous, juste le Grand Prix 2023, comment qu'on en avait eu des dépassements tout au long, puis que ça avait été un très bon Grand Prix, le premier Grand Prix de la saison, avec Alonso qui avait volé le spectacle aux dépens de Carlos Sainz, Lewis Hamilton. On n'a pas eu ça cette saison-là.
2022 aussi, il y avait eu la belle bataille Max et Charles aussi là, pour
Ben
la tête de
oui,
la course. Là, ça a été
juste en temps que la
super.
voiture, juste en temps que la Red Bull rende l'âme, c'est ça, on avait eu un bon
Ouais.
spectacle aussi, exactement. C'est ça, c'est pour ça. On n'a pas eu ça cette année, mais encore là, est-ce que c'est moi qui fait erreur de cibler le DRS pour ça? C'est d'autres raisons qui ont fait que le spectacle a peut-être été moins avantageux, mais du moins, c'est ce qu'on a changé. Puis on a peut-être eu le Grand Prix de Bahreïn le moins intéressant depuis le début de la saison, là. Du moins depuis que le Grand Prix de Bahreïn est là. Je vous apporte maintenant, on s'en va déjà, ça avance vite, on a touché beaucoup de sujets, tout ça. Je vous emmène dans un segment vrai ou faux. En fond, je vous pose une question et je vous demande de répondre par vrai ou faux. Vous pouvez un peu aussi là, donner un peu d'opinion à travers de ça, là. C'est quand même pas si strict que ça, là. Donc, on va y aller avec le temps qui nous reste. Mais je débute en vous demandant, vrai ou faux, Daniel Ricciardo ne termine pas la saison en Formule 1 ou du moins chez Racing Bulls. Je peux y aller avec toi,
Je vais
Kevin.
aller blanc.
Ah,
OK,
vas-y,
bon.
Jean-Christophe. Vas-y, Jean-Christophe.
OK, bon. Moi, je ne crois pas qu'il va finir la saison. Ça va être un peu la même histoire que McLaren. C'est bien triste de voir vraiment, là, il est vraiment dans une descente aux enfers, notre Daniel, là. C'est triste à voir, là, pour une saison 2014 où il bat un quadruple champion du monde, comme Vettel à faire battre par Yuki Tsunoda, qui est très bon, certes, mais c'est Yuki Tsunoda, là. C'est pas la mer à boire non plus. Puis il a l'air désemparé de ça. Surtout quand même avec son lap en Australie, qui a pris un off-track, là, il dit, même si j'avais, tu sais, c'est tout ce que j'avais. Il voit plus que Yuki trouve 6 dixièmes en Q2. C'est rough, là. Il lève les bras, il dit en entrevue, je ne sais pas où tu trouves le temps, honnêtement.
Ouais,
Ça,
ça c'est.
c'est vraiment la marque d'un pilote en descente. Je serais très surpris qu'il retrouve la confiance pour qu'il fasse n'importe quoi de proche d'être meilleur que Yuki.
Quand tu
Fait
commences à plus
que
avoir de
c'est.
réponses pour tes performances, là, ça nous rappelle un peu le Daniel Ricciardo de McLaren.
La
J'enchaîne
même
avec toi.
chose.
C'est ça exactement. J'enchaîne avec toi, Kevin. Vrai ou faux, Daniel Ricciardo ne terminera pas la saison en Formule 1 ou chez Racing Bulls, au moins.
Non, c'est ça. D'après moi, là, il durera pas toute la saison. Puis Helmut Marko a déjà mis la pression là, sur Ricardo. Il l'a mis également sur Tsunoda, mais Tsunoda a bien répondu là, en Australie, là. Mais pour ce qui est Ricardo, ça regarde pas bien. On le sent pas en confiance. On le sent pas assez rapide. En fait, il n'est pas assez rapide. J'avais vu une statistique qui montrait l'écart que Tsunoda a avec Ricardo et l'écart qu'il avait avec Nick DeVries l'année passée. C'est sensiblement la même chose en qualification.
Ouais,
Fait que
exact.
ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis surtout qu'il y a un Liam Lawson qui est prêt à sauter dans la voiture le plus rapidement possible pour faire ses preuves. Moi, je suis très, très, très sceptique de voir Ricardo terminer la saison. C'est plate parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, que j'aime depuis ses débuts, mais il faut constater que ça ne fonctionne pas en ce moment.
J'enchaîne, on va y aller un petit peu plus rapidement parce que je veux qu'on ait le temps de tous les passer, tout ça. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire là, sur chaque sujet. Donc, moi, la confrontation, là, en début de saison, vous savez comment j'aime ça, faire participer nos auditeurs du F1 Podcast. J'avais fait le sondage, qui va terminer avec le plus de points au classement, Oscar Piastri ou Lando Norris? 64% des répondants, puis ça c'est avant que la saison commence, avaient répondu que ce serait Lando Norris qui terminerait devant. Présentement, il y a seulement trois courses de passer, mais Piastri est au cinquième rang, un point devant Lando Norris avec 28 et Lando Norris en a 27. Vrai ou faux, Oscar Piastri va terminer la saison devant son coéquipier Lando Norris. Vas-y, Kevin, en premier.
Non, je pense que Norris va quand même réussir à finir devant. Il a plus d'expérience. C'est sûr, il a plus d'expérience. Il est plus habitué à la voiture. Piastri a encore beaucoup à apprendre. C'est un très bon jeune pilote. Faut pas le nier et tout, là. Mais non, c'est sûr, ça fait trois courses aussi, là. Fait qu'il faut tempérer un peu, là.
Ouais.
Mais bon, j'ai quand même l'impression que Norris va réussir là, à remonter la pente. Puis il va quand même terminer devant, là. Je pense pas être inquiet là-dessus.
Devant. Du côté de toi, Jean-Christophe, Piastri, l'année passée, là, il avait accumulé, je pense, 97 points au total dans une saison complète. Il en a déjà ramassé 28. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'il va rester devant Lando Norris ou Lando Norris va prendre le dessus?
Moi, je vais aller avec la décision plus surprenante. Moi, je crois qu'il va rester en avant. Je
Ouais.
crois que même avec son manque d'expérience, il répond mieux à la pression que Norris. Norris aime pas se faire un peu trop égaler ou talonner par un autre pilote, surtout qu'il a moins d'expérience, puis c'est ça qui arrive en ce moment. J'ai plusieurs reprises en qualif, surtout, on voit vraiment qui se met beaucoup de pression, puis il n'est pas capable toujours de la supporter. Et je crois que le plus que Piastri va être confortable, qu'il va remettre de la pression, qu'il va faire des temps de calibre exceptionnels, Lando, il va commencer un petit peu à plier des genoux. Il le fait des fois un petit peu, mais pas tout le temps, comme en Australie,
Ouais.
il qualifie en avant, très bien. Il était très proche les deux, c'était, je pense, à 30 centièmes la différence, quelque chose de même, une affaire ridicule. Alors, mais à la longue, Piastri, il prend vraiment bien son expérience. Il prend du galon rapidement. Et je crois que ça dérange beaucoup Lando. Du fait que Lando, ça fait longtemps qu'il est là, il se voit comme le pilote numéro un, il a sorti Ricciardo de l'équipe, il bombe le chess un peu, mais je crois pas qu'il a le caractère pour pouvoir, après ça, se faire égaler par un pilote plus jeune.
J'enchaîne dans la même lignée de questions du côté de Ferrari. On avait aussi posé la question aux auditeurs du F1 Podcast en début de saison, bien sûr. Charles Leclerc ou Carlos Sainz, qui va terminer devant? 55% des répondants avaient répondu que Charles Leclerc terminerait devant Carlos Sainz. Pour l'instant, il est toujours devant Carlos Sainz, mais avec une course en moins du côté de l'Espagnol. Sainz est quatrième au classement avec 40 points. Et Charles Leclerc, malgré qu'il a participé à une épreuve de plus, il a seulement 7 points d'avance. Je commence avec toi, Jean-Christophe, rapidement, vrai ou faux, Charles Leclerc va terminer devant Carlos Sainz.
Vrai, vrai, ça va rester proche toute la saison, mais même avec sa course en poche, je pense pas que, ou sa course en moi, je pense pas que Carlos va être capable de, même si c'est un petit écart en ce moment, il va s'exacerber. Fait
OK.
que je crois que ça va rester similaire, puis ils vont être très proches au classement, mais que Charles va prendre le dessus.
De ton côté, Kevin?
Pareil, je trouve que Leclerc va rester devant Sainz, là. Les deux sont deux très bons pilotes. Ils vont être proches toute la saison, mais je pense qu'au final, Leclerc va quand même réussir à terminer devant Sainz.
Je me transporte du côté de Mercedes. Vous me voyez déjà venir. On avait posé la question, encore une fois, aux auditeurs du F1 Podcast. 62% des répondants avaient répondu que Lewis Hamilton terminerait devant George Russell. Trois épreuves à la saison. Russell est septième au championnat des pilotes avec 18 points. Et puis, Lewis Hamilton est tout juste dans la coupure du top 10 avec 8 points. D'ailleurs, il est un point derrière Lance Stroll, soit dit en passant. Selon vous, vrai ou faux? George Russell va terminer devant Lewis Hamilton. Je commence avec toi, Kevin.
Dans mes prédictions, j'avais dit qu'Hamilton finirait devant Russell. C'est peut-être en train de me dire le contraire en ce moment, mais je pense que Lewis a assez d'expérience et est assez talentueux pour remonter la pente et tout, même s'il a probablement la tête déjà chez Ferrari aussi. Il ne faut peut-être pas l'oublier, mais moi, je pense qu'Hamilton est capable de revenir et finir devant Russell. Mais c'est mon avis.
De ton côté, Jean-Christophe?
Moi, je pense pas qu'il va finir devant Russell. Il est déjà quand même un petit bout en arrière. Puis de ce que je vois de son feedback, de comment est-ce qu'il parle de la voiture, comment est-ce qu'il parle de l'évolution, il n'y a vraiment aucune espérance. Il n'aime pas la voiture. Il a de la misère à s'adapter. Même si George fait des erreurs, il est plus rapide en qualif que Hamilton plus assez régulièrement. Je trouve ça triste un peu, je veux dire, Hamilton, c'est Hamilton, là. Je lui enlèverais aucune fleur de son. Je lui enlèverais rien de son parcours, en fait. Mais je trouve ça. Il y a vraiment. Cette voiture-là, cette génération de Mercedes-là, il y a vraiment un gros problème avec le derrière de la voiture. Il n'a pas confiance en la voiture. Il va faire plus d'erreurs à la régulière que Russell à qualifier en course. Puis avec ça, malheureusement, en plus avec la tête déjà sur Ferrari, il s'en fout un petit peu, je pense.
En terminant, il nous reste que quelques minutes. C'est ma dernière question. C'est la question qui tue. C'est la question qui aurait peut-être demandé le plus de développement, mais on la ramènera dans un autre épisode plus tard dans la saison où on aura plus la chance d'en parler. Mais je vous demande, vrai ou faux, Mercedes a besoin d'un budget illimité pour gagner en Formule 1. Je commence avec toi, Jean-Christophe.
Très bonne question, très bonne question. Moi, je crois que oui. Il marchait vraiment bien avec ce modèle de business-là. Il y avait cette aura-là de, tu sais, on n'a pas besoin de budget, on n'a pas de problème de budget. Qu'est-ce que ça prend pour gagner?
Ouais.
Et là, avec le cap de budget, drôlement, c'est leur mentalité, je dirais pas qu'ils seraient arrogants, mais ça a joué un peu sur. C'est comme on est Mercedes, on est les standards, on est les meilleurs. Puis là, à ressources égales, avec le même nombre d'outils, c'est comme ouais, hein, c'est pas juste écrire plus de chèques pour avoir plus de développement. Hein.
Non,
Ben,
exactement. Si on se
ça va être très difficile.
Dernière saison où ils ont pu construire une voiture avec un budget illimité, ils ont dépensé 450 millions pour faire la voiture de 2021 où le plafond rentrait en vigueur. Puis à ce moment-là, ça a été la dernière saison où ils ont été vraiment compétitifs. Je m'en vais avec toi, Kevin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mercedes ont besoin d'un budget illimité pour gagner en Formule 1?
Ben, ça a l'air de ça, hein? Ils ont connu une très grande période de domination avec notamment avec les succès d'Hamilton. On a eu Rosberg, là, il y a eu le passage de Paddy Lowe au début de l'ère Mercedes, après ça, James Allison qui a fait un super travail aussi. Là, il y a quand même eu certains éléments qui sont partis de chez Mercedes pour aller vers d'autres écuries. C'est sûr que bon, on compense quand même en rapatriant d'autres personnes, mais c'est sûr que c'est quand même difficile pour eux depuis quelques saisons là, de revenir se battre pour la victoire, là, parce que depuis 2022, là, il y a
Ouais.
juste la victoire de Russell là,
Non,
au
exactement. Puis
Brésil.
pour l'instant, on est forcé d'admettre que c'est eux qui ont l'air de recevoir les coups les plus durs de ce budget-là, là, de ce budget, de ce fameux plafond budgétaire. Écoutez, comme je pense que vous allez me donner raison, c'est un sujet qui demandait beaucoup plus de temps, là. Je voulais glisser comme dernière question. Enfin, mais on va pouvoir le ramener au cours de la saison, dépendamment si surtout si Mercedes continue dans cette lignée-là. Je vais prendre le temps avant de mettre fin à l'épisode pour vous remercier d'avoir été là les deux. Je pense que vous avez fait un bon travail. Je suis sûr que les auditeurs vont aimer. C'est une formule qui va revenir au cours de la saison. On va appeler ça là, notre formule entre deux courses. Donc, on va avoir la chance de discuter ensemble. Kevin, autant et aussi longtemps que tu vas être disponible pour être avec nous, ça va nous faire plaisir de t'avoir. Même chose pour Jean-Christophe, qui est un collaborateur du podcast. Donc, je prends le temps pour vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez fait un excellent travail. Puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous les deux.
Merci beaucoup, c'est bien gentil.
Ben oui, merci beaucoup encore l'organisation, Martin, c'est super apprécié. Bon week-end de Pâques à vous.
À vous autres aussi. Salut les boys.
Merci beaucoup. Bye bye.
All right, à la prochaine, bye.
C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 29 mars. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix du Japon qui se tiendra sur le circuit de Suzuka. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, dont Spotify, Facebook, afin de ne rien manquer de l'actualité du sport le plus rapide au monde. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast et joyeuse Pâques!